Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce jeudi midi. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a fait mardi 3 propositions au chef de l'État sur la gestion et la préservation des infrastructures sportives telles que le stade, les terrains d'entraînement et les cités CAN. Et ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres d'hier mercredi, au cours duquel le président de la République a demandé au Premier ministre Robert Beugré Mambé de prendre les mesures utiles pour assurer la bonne gestion de ces infrastructures. La hausse du taux de pression fiscale de 0,5% affectera le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est ce qu'affirme l'économiste Germain Cramaux, que vous retrouverez en cours d'édition. Dans l'actualité internationale au Cameroun, Human Rights Watch dénonce les lenteurs dans les procès du massacre d'une localité du nord-ouest du pays. Et puis en fin d'édition, dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Prao Yao Séraphin, enseignant en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké, se prononcera sur le prix de la tonne du cacao qui connaît une hausse sur le marché mondial. Il sera interrogé par Aoussi Potin. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, ouvrons ce journal avec la préservation des infrastructures sportives de la CAN au cours de la cérémonie d'hommage aux éléphants. Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a fait 3 propositions au chef de l'État sur la gestion et la préservation des nombreuses infrastructures telles que les stades, les terrains d'entraînement et les cités CAN. Et ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres d'hier mercredi, au cours duquel le président de la République a demandé au Premier ministre Robert Beugré Mambé de prendre les mesures utiles pour assurer la bonne gestion des infrastructures en examinant bien évidemment les 3 propositions du président de la FIFA. On écoute Alassane Ouattara.
Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soit une priorité immédiate. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. Je demande à M. le Premier ministre d'examiner les 3 propositions faites par le président de la FIF afin que ces infrastructures soient préservées et servent notre jeunesse et le football ivoirien. Le président de la Fédération ivoirienne de football avait fait 3 propositions. La première concerne la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle CAN que nous avons organisée soit préservé et serve le football ivoirien et pourquoi pas continental. Deuxièmement, que la transformation des cités CAN en pôle de développement sous-régional puisse être réalisée. Et troisièmement, la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. Ceci, bien sûr, est déjà en cours.
Voilà, c'était le président ivoirien Alassane Ouattara. Et encore, notre président, n'est-ce pas, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, a décrété l'année 2023 l'année de la jeunesse. Ainsi, le gouvernement a mis en place le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025 d'un coût estimatif de 1 118 milliards de francs CFA avec 3 axes majeurs, à savoir l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse et l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Au terme du Conseil des ministres d'hier, mercredi, le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a fait le point partiel du PJGouv 2023-2025. Nous l'écoutons.
Au 31 décembre 2023, les initiatives entreprises dans le cadre du PJGouv ont permis d'impacter directement 1,1 million de jeunes, de sensibiliser 8,2 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et de construire ou réhabiliter 112 structures de formation et d'infrastructures de jeunesse. L'ensemble de ces réalisations a nécessité un investissement de 535,8 milliards de francs CFA, dont 360,5 milliards de francs CFA pour les constructions ou réhabilitations d'infrastructures, 173 milliards de francs CFA pour les initiatives d'accompagnement direct des jeunes vers l'emploi et l'autonomie et 2,4 milliards de francs CFA pour les actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes.
Voilà, c'était le ministre Amadou Coulibaly, également porte-parole du gouvernement ivoirien. Le Conseil supérieur de la magistrature a organisé une double cérémonie de présentation des vœux, mais surtout de ses missions, l'occasion pour son président de lancer un appel vibrant à tous les justiciables de Côte d'Ivoire pour qu'ils apportent leur pierre, oui, leur pierre à l'édifice pour une justice impartiale pour tous. Nous l'écoutons.
Si la justice marche mal, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est en danger. Donc je lance cet appel à tout le peuple de Côte d'Ivoire d'aider la justice à ce qu'elle marche bien. Ce qu'on remarque en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde est d'accord avec le principe de l'indépendance de la justice, à condition que cette indépendance ne s'applique pas à lui. On veut que les juges soient indépendants. Mais le jour où on est intéressé par un dossier en justice, il faut qu'on vienne intervenir auprès du juge pour qu'on libère celui qui a tué, pour qu'on libère celui qui a détourné. Et quand on obtient, on est heureux. Mais tout ça, ce sont des atteintes à l'indépendance de la justice. Si ça continue comme ça, la justice ne sera jamais indépendante. Donc tout le monde doit se sentir concerné par l'indépendance de la justice. Les juges eux-mêmes, les magistrats, mais également le peuple de Côte d'Ivoire, qui doit comprendre que cette affaire d'indépendance, c'est l'affaire de tout le monde. Pour qu'on puisse espérer une justice indépendante, il faudrait qu'un jour un magistrat, un Ivoirien puisse dire, c'est mon fils, il a violé la loi, je laisse la justice sur son cours normal. Si tout le monde se met d'accord sur ce minimum, sur ce programme minimum, je pense que la justice peut aller. Ce n'est pas l'affaire des seuls Ivoiriens, des seuls magistrats, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens.
Voilà, c'était Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature, dans des propos recueillis par Mata Touré. Le ministre de l'économie et des finances vient d'annoncer une hausse du taux de pression fiscale de 0,5% et cela devrait permettre à tout le monde de payer l'impôt et cela l'achat de certains produits à travers la TVA, explique Dr Germain Cramo, enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Lorsque nous prenons l'année fiscale pour l'année 2024, nous voyons que la pression fiscale de 0,5%, c'est au niveau de la TVA, donc c'est le pouvoir d'achat des ménages qui sera affecté. Par exemple, il y a des secteurs qui n'étaient pas taxés et qu'on va taxer, c'est ce qui va permettre d'avoir cette hausse de la pression fiscale. Donc ça ne veut pas dire qu'on va augmenter le taux des anciens impôts, non, mais ce sont des secteurs, par exemple, certains aliments qui n'étaient pas taxés, tels que les fruits, la viande, les poissons, qui seront taxés. On va mettre la TVA sur le prix de ces fruits, de ces viandes, de ces poissons, ce qui va permettre de collecter un peu plus d'impôts et augmenter cette pression fiscale. Également, pour les VTC, il est prévu un prélèvement de 4% sur le revenu des propriétaires des VTC. Vous voyez que si les VTC sont taxés, il va sans dire qu'ils vont répercuter ça sur les utilisateurs de ces VTC, les clients que nous sommes, ce qui va affecter le pouvoir d'achat.
De façon très simple, que signifie la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée?
La TVA, c'est comme vous le dites, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'impôt que les consommateurs payent lorsqu'ils font des achats. Donc le magasin va collecter cet impôt qui va reverser à l'État. Donc c'est un impôt que nous payons sur les biens de consommation que nous utilisons. Donc lorsqu'on partons au supermarché, que nous payons un bien, quand nous regardons sur nos factures, quelque part, il est mis TVA. Donc, nous payons l'impôt, l'entreprise collecte et l'entreprise va reverser à l'État. Donc, plus ou moins, nous payons tous l'impôt à partir du moment où nous faisons des achats dans les supermarchés et autres.
Voilà, docteur Germain Cramo. Il est enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il était avec Francis Cassil. Affaire gestion de 5% de parts sociales au guichet unique du foncier. Le ministère de la Construction crie à la diffamation et saisit le procureur de la République. Les journalistes poursuivis dans cette affaire se défendent d'avoir fait le travail d'informer. Ils vont bien plus loin en citant leur source qui n'est autre qu'un syndicat des agents du ministère de la Construction. Là-dessus, écoutons notre confrère Dosso Villard, directeur des rédactions au quotidien Le Panafricain, un des deux journalistes poursuivis.
Le ministère de la Construction a dit qu'il y a eu diffamation. Moi, j'ai dit, mais il n'y a pas de diffamation. On n'est pas de diffamation que lorsque on écrit contre quelqu'un sans prendre son avis. Tout est parti même d'un courrier du Premier ministre, d'alors Daniel Clément-Duncan, qui date du 1er août 2013, qui demande à tous les départements ministériels qu'il y ait une traçabilité de l'argent qui rentre ou qui sort au niveau des ministères. Et au niveau du ministère de la Construction, il y a le guichet unique du foncier où il y a des transactions qui se font. 5% des parts sociales sont considérées comme une caisse noire. Des syndicalistes qui suivent cette affaire-là de près, ce sont des agents même du ministère de la Constitution qui ont envoyé des courriers au président de la République. Ça a été dénoncé par les agents du ministère de la Constitution. Muni de ce courrier-là, qui estime qu'il y a au moins 100 milliards de francs CFA qui ont été engloutis dans le noir par le guichet unique du foncier à travers une pratique douteuse, selon eux.
Donc, vous avez été entendu. Qu'est-ce qui a été décidé?
Le ministère a saisi l'ANP, l'ANP nous a blâmé sur la forme, mais pas sur le fond du dossier. On va mettre du temps. Mais, ça, insatisfait, ils sont saisis. Encore le procureur de la République, le ministre de la Constitution, à travers son directeur de cabinet. Donc, le procureur a envoyé une sorte d'enseignement à la gendarmerie pour nous entendre. Nous avons entendu avec toutes les preuves, tous les éléments. Donc, fournit tous les éléments à la gendarmerie. Donc, la balle est maintenant dans le camp du procureur de la République.
À l'instant, Dosso Villa, directeur des rédactions, sinon des rédactions du quotidien, Le Panafricain est avec Constant Mahilé. Future monnaie des pays de l'Alliance des États du Sahel, l'idée est en réflexion selon les informations communiquées dimanche dernier par le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tchiani, qui dans une interview a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Mali et le Burkina Faso pour dire qu'il voudrait sortir, n'est-ce pas, ces trois pays de la colonisation. Quelles sont les conditions à respecter pour la création de cette future monnaie? Des précisions avec professeur Yao Prao Séraphin, enseignant en économie et spécialiste des questions monétaires à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Il y a, à mon humble avis, quatre conditions qu'il faille respecter. La première condition, c'est la condition économique. Il faut que ces pays-là, en tout cas, enregistrent des taux de croissance positifs. En regardant quand même les chiffres, au Mali, par exemple, en 2023, le taux de croissance, il est de 5,1%. 5,3% projeté en 2024. Vous prenez le Burkina Faso, en 2023, c'est 4,3% et projeté pour 2024 à 4,8%. Quand vous prenez le Niger également, en 2023, j'ai mis un taux de croissance de 6,9%. Mais vous savez, dans tous les cas, quand on crée une zone monétaire, c'est la volonté politique qui prime. Donc, il peut y avoir des soutiens forts de la Chine, de la Corée du Nord, etc. Il y a une deuxième condition, c'est la condition technique. La condition technique, c'est de dire, mais d'abord, c'est quel régime d'échange que nous allons arrêter? Quelle est la politique monétaire? Comment on va l'amener? Est-ce qu'il y aura des spécificités propres à chaque pays, comme on le fait dans l'UEMOA actuellement? Qui va gérer la banque centrale de ces trois pays? Et puis après, cette monnaie, elle sera fabriquée où? Comment avoir des monnaies sécurisées, les monnaies peu falsifiables? Troisième condition, c'est la condition sécuritaire. La condition sécuritaire, c'est que nos frères traversent des moments difficiles, vous le savez. Il y a cette dimension-là qu'il fallait quand même prendre vraiment en compte. La quatrième condition, c'est l'adhésion des populations. Vous ne pouvez pas créer une monnaie si la population n'est pas d'accord. C'est pourquoi moi, je préfère qu'on soit dans une union plus large. Parce qu'aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est l'élargissement des unions pour que nous soyons forts.
Voilà, professeur Yao Prao Séraphin, enseignant en économie et spécialiste des questions monétaires à l'Université Alassane Ouattara de Boaké. Dans l'actualité internationale au Cameroun, l'organisation Human Rights Watch s'inquiète des lenteurs dans le procès du massacre de Ongabo. En février 2020, 23 civils avaient été tués dans cette localité située au nord-ouest du pays, une région anglophone où les forces armées affrontent des groupes armés indépendantistes. Trois militaires ont été inculpés, mais aucune condamnation n'a encore été prononcée et des audiences ont été reportées à plusieurs reprises, alors que le procès doit reprendre cette semaine. Human Rights Watch demande à ce que les familles des victimes soient écoutées. Sans transition à présent, l'invité de la rédaction, professeur Prao Yao Séraphin, l'invité de Aoussi Potin. Dans cet entretien, l'enseignant en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké se prononce sur le prix de la tonne du cacao qui connaît une hausse sur le marché mondial.
Professeur Prao Yao Séraphin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, professeur Prao Yao Séraphin, le cours mondial du cacao est en hausse nette avec, on peut dire, un record hein, depuis 47 ans, 4877 $ la tonne. Comment peut-on expliquer cette montée du cacao au plan mondial?
Il faut savoir que le prix du cacao, comme n'importe quel prix des matières premières, respecte la loi de l'offre et de la demande. En fait, face à une demande léthargique, une demande qui ne baisse pas, si l'offre ou si les prévisions de l'offre sont inférieures aux prévisions de la demande, mécaniquement, les prix vont augmenter. En l'occurrence, ici, fondamentalement, la première cause est due à une baisse profonde de l'offre de cacao. Vous savez que les premiers producteurs en Afrique sont respectivement la Côte d'Ivoire, notre pays, avec 40% de l'offre, suivi du Ghana, 20%, et du Nigeria. Et donc, à nous trois, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, nous avons 70% de l'offre mondiale. Or, vous savez bien qu'il y a eu ces temps-ci une pluviométrie qui a déréglé la production cacaoyère. À cela, faut ajouter aussi le problème de la diversification des revenus des planteurs. Quand, sur plusieurs années, de façon tendancielle, les paysans voient leurs revenus baisser, qu'est-ce que les paysans font? De façon rationnelle, les paysans vont vers d'autres productions, d'autres spéculations. Les maraîchers, les bananes, ananas, etc., etc. Donc, du coup, de façon tendancielle, il y a une baisse, effectivement, de la production dans ces pays-là.
Au-delà des éléments que vous venez de citer, quels sont les autres éléments qui pourraient donc expliquer hein, cette hausse du prix dû, comme vous l'avez indiqué, donc, à la baisse au niveau de la production quant aux principaux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana en particulier?
À cela, il faut ajouter aussi le fameux El Niño. El Niño, vous savez que c'est un réchauffement, n'est-ce pas, des eaux du Pacifique Sud. Et donc, ceux-là qui sont dans le Pacifique Sud, de l'autre côté, qui fournissent aussi le cacao, ont vu effectivement cette maladie jouer qualitativement et quantitativement sur la production. Donc, du coup, l'offre a baissé. Et face à une demande très forte, il y a eu effectivement mécaniquement une hausse des prix. Le déficit se situe aujourd'hui à peu près, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du cacao, hein, à 116 000 tonnes. Hein. Et à cela, encore, il faut ajouter pour finir la spéculation, par crainte effectivement de pouvoir fournir les feuilles de cacao aux majors.
Est-ce que l'on peut s'attendre aujourd'hui, pour une fois, à une hausse des prix aux producteurs?
Non, je ne pense pas. Parce que vous savez, depuis un certain nombre d'années, après la malencontreuse, pour ne pas dire malheureuse, expérience de la libéralisation de la filière café cacao en Côte d'Ivoire, nous sommes revenus dans un système mixte où il y a une part de flexibilité exigée par la libéralisation et une part de fixité que nous avons empruntée effectivement de la caisse de stabilisation de feu au fourvoyer. Donc ça a donné ce qu'on appelle le conseil café cacao. Et dans le conseil café cacao, qu'est-ce que nous faisons? Il y a ce qu'on appelle le prix de vente anticipé à la moyenne. On essaie de fixer un prix aujourd'hui et les livraisons vont se faire plus tard. C'est ce que nous appelons en économie un marché à terme. À la différence d'un marché au comptant, le marché à terme, c'est que vous jugez le prix d'une marchandise qu'on va vous livrer plus tard, mais le prix est jugé aujourd'hui. En l'occurrence, le prix a été fixé déjà, hein, la campagne 2023-2024 a été fixée à 1100 le kilogramme. Et donc, du coup, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a deux périodes phares, hein, en général. La période va de avril à septembre et d'octobre à mars. Le plus souvent, 80% hein, de la production est vendue entre octobre et mars.
Mais est-ce qu'il est possible de réfléchir à notre mécanisme qui pourrait donc permettre d'éviter ces prix fixés à l'avance et puis après les coûts mondiaux augmentent et l'on ne peut plus rétro-pédaler pour revoir le prix à l'achat aux producteurs?
Il va falloir, à mon humble avis, que les experts du Conseil cacao fassent attention parce que ça fait très mal et cela décourage aussi les producteurs. Monsieur le journaliste, ceux dont vous parlez aujourd'hui, ils vont vous écouter à la radio. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que le prix a augmenté au niveau international et nous, notre prix reste aussi fixe? Donc, je pense qu'il va falloir avoir des prévisionnistes très outillés pour pouvoir un peu, à mon humble avis, hein, faire des prévisions sur pas une période aussi courte comme nous le faisons actuellement, mais une période un peu longue quand même sur les 2 ans, un an et demi à venir, quel sera le coût tendanciel. Et en fonction de ça, on peut essayer de fixer quand même le prix et relever un peu. À mon humble avis, le gouvernement n'a pas fait un effort en fixant le prix 2023-2024 à 1000 francs. Les experts du café cacao, les enseignants comme tous ceux qui travaillent autour effectivement de ce pool café cacao ont dit que le gouvernement pouvait proposer pour une fois un prix autour de 1300 francs CFA pour notre paysan. Il n'a pas fait. On n'a pas fait. Et bon, on a augmenté de 900 à 1000 francs le prix. C'est vrai qu'il y a une augmentation de 100 francs CFA, Mais quand nous voyons aujourd'hui le différentiel qui va rentrer dans la caisse Café Cacao, je pense que le président pourrait, à mon humble avis, même si ce n'est pas refixé le prix, mais pourrait par exemple faire un don aux organisations fêtières pour que ces dons-là puissent leur permettre de mieux faire la traçabilité de nos paysans et puis diminuer un peu le coût des intrants. C'est-à-dire qu'au total, nos grands paysans voient que sur le marché international, les prix ont augmenté, mais au niveau de leur poche, les poches sont vides.
Professeur Bravo Yao Séraphin, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, professeur Yao Prao Séraphin, enseignant en économie à l'université Alassane Ouattara du Bois, qui répondait aux questions de Francis Cassé dans le cadre de l'invité de Aussi Potin, voilà, dans le cadre de l'invité de la rédaction. Et voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a fait mardi 3 propositions au chef de l'État sur la gestion et la préservation des infrastructures sportives telles que les stades, les terrains d'entraînement et les cités CAN. Et ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres d'hier mercredi, au cours duquel le président de la République a demandé au Premier ministre Robert Beugré Mambé d'examiner les 3 propositions du président de la FIF. La hausse du taux de pression fiscale de 0,5% affectera le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est ce qu'affirme l'économiste Germain Cramo, que vous avez entendu dans ce journal. Dans l'actualité internationale au Cameroun, Human Rights Watch dénonce des lenteurs dans le procès d'un massacre d'une localité au nord-ouest du pays. Voilà, c'est la fin de ce jeudi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. Le premier conseil des ministres post-CAN, pour emprunter l'expression du journal Le Patriote, c'est